Voilà, ben merci Seigneur, merci parce que tu nous parles de toutes sortes de manières, tu nous parles dans la prière, tu nous parles par tous ces chants et tu nous parles aussi par la Bible. Nous te demandons Seigneur de nous donner l'esprit d'écoute pour entendre Seigneur ce que toi tu nous dis. Au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc c'est Noël ? Non, c'est pas Noël, pas encore, mais moi je déplore quelquefois que Noël ce soit seulement une fois par an. Il y a les enfants qui sortent, ben, on va prier et me dire merci Seigneur pour les enfants et ceux qui s'occupent d'eux. En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans cette église. Pour ceux qui connaissent pas cette église de longtemps, il y a eu une époque, il y a eu jusqu'à 40 enfants ici. Ils ont grandi. Et ben, c'est important vraiment, Seigneur, nous te prions que ces enfants, ben, ils soient aussi touchés, qu'ils reçoivent quelque chose, qu'ils apprennent à aimer le Seigneur. Amen. Moi, j'ai coutume de dire, s'il y avait le choix, ce serait mieux qu'il y ait plus de Saint-Esprit là-bas, là, avec les enfants qu'ici. Mais heureusement, le Saint-Esprit, il se partage pas en morceaux. Il y en a pour tout le monde. Alors je veux prêcher pour Noël parce que moi j'ai envie il y a tellement de choses à dire à Noël, j'ai trouvé, c'est dommage que de le faire seulement une fois par an. Alors moi je suis en train de le faire plusieurs fois, mais comme je ne suis pas plusieurs fois ici, tant pis. Je vous propose là un passage de Noël, de récit sur la naissance de Jésus, qui est dans Luc chapitre 2, versets 25 et suivants. Ce sont des personnages... Bah, quand on lit le récit, on le lit, mais deux personnages un peu marginaux, quelque sorte. Ils apparaissent là, puis ils disparaissent, on n'entend plus parler, que j'appelle les vieillards qui ont vu Jésus. Verset 24. Ils venaient, les parents de Jésus venaient au temple de Jérusalem offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Et il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. » Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. » Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asher. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis, elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour. Par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Voilà, ces deux personnages, c'est Siméon et Anne. Les vieillards qui ont vu Jésus, tout à l'heure, Jean-Michel a dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais moi, j'ai trouvé ça... tout à fait correspondant parce que il s'agit bel et bien, est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le Messie,
Ils ont vu ce bébé, ils ont dit c'est lui, et ils ont prophétisé, et ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu. Est-ce que vous avez vu Jésus? Est-ce que... une fois, il y a quelqu'un qui est arrivé chez moi, et puis qui est arrivé en disant « J'ai vu Dieu !» Alors moi, quand j'entends quelque chose comme ça, j'attends la suite, hein. J'attends ce qu'il va dire, il y a une explication, il va nous dire de quoi il s'agit. Après, il a dit « J'ai vu l'église de demain !» Ah, bon, déjà, je peux comprendre mieux. Bref, il n'avait pas participé à un rassemblement, et il y a vu l'église de demain. C'est important pour un jeune de voir non pas l'ancienne église dans laquelle ces vieux l'ont fait grandir, mais d'avoir l'impression de voir l'église qui est l'église nouvelle, qui est en train de se former. Ouais, il a vu quelque chose et il a osé, il a eu le culot de le présenter en disant « J'ai vu Dieu ». Évidemment, c'est un peu fort de le dire comme ça, mais moi je comprends. Parce que l'église, elle n'existe que si Dieu est à l'action sur terre. Alors qu'est-ce que... Ces personnages qui ont vu Jésus, qu'est-ce qu'ils ont vu? Moi, je vais essayer de parcourir le texte, d'examiner. Siméon, on nous dit que c'était un homme droit et pieux. On ne nous dit pas spécialement que c'était un prêtre. Dans le temple, il y avait des tas de gens qui étaient des prêtres, enfin, qui avaient des fonctions, quoi, qui travaillaient. Même pas, on ne nous le dit pas, en tout cas. Vous connaissez ce chant, hein, les vieux de la vieille, ils se souviennent, Siméon par ta longue barbe, je ne vais pas le chanter, Siméon par ta longue barbe, tu défies le calendrier, dans tes yeux où la vie s'attarde, on peut lire ton humilité. Moi je vous dis, je suis à peu près sûr qu'on ne peut pas vieillir dans la foi et la fidélité sans vieillir en même temps dans l'humilité. Parce que forcément dans toute une longue vie on en voit de toutes les couleurs, et on en voit de toutes les couleurs, et on vit non pas dans le but d'en voir de toutes les couleurs, mais dans le but de voir ce que Dieu a promis. Et lui, il avait reçu une promesse. Alors la promesse du Messie, c'était pas extraordinaire. Hein. Il était droit, Siméon. Bon, après tout, ça se fait. J'espère qu'il y en a parmi nous, des gens qui sont droits dans leur vie courante, hein, qui essayent de se comporter... correctement. Il était pieux, pourquoi pas? Ça se fait. Ça se faisait et ça se fait. Et j'espère que parmi nous, il y a un certain nombre de gens qui cultivent la piété, c'est-à-dire la prière, dans l'église ou chez eux, pour avoir une vie spirituelle. Alors il était droit, il était pieux et il était dans l'attente, dans l'espérance de l'accomplissement des promesses que Dieu avait fait à Israël. Les Juifs attendaient beaucoup à cette époque. Ils attendaient le Messie, ils attendaient que vienne le libérateur. Vous voyez, j'insiste là-dessus, c'est peut-être du détail, mais est-ce que vous voulez voir Jésus? Si vous voulez voir Jésus, pourquoi ne commencerions-nous pas par ressembler à Siméon? C'était un homme droit, pieux, et qui était dans l'attente. C'est important l'attente, hein. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on serait... Souvent, quand Dieu fait quelque chose, on est surpris. Mais la surprise, ça s'accueille, vous comprenez? C'est quand on est disponible qu'on peut accueillir l'imprévu. Si on n'a pas appris à être disponible, on est enfermé dans sa coquille et l'imprévu, probablement, on va le laisser dehors parce que ça nous perturbe. Dieu nous perturbe. Dieu nous perturbe. Quand il vient, quand il fait quelque chose, ça nous perturbe. Et pour pouvoir l'accueillir, il faut être dans l'attente, dans le désir de qu'il se passe quelque chose. Et puis, qui plus est, alors il est droit, il est pieux, il est dans l'espérance, et puis le Saint-Esprit était sur lui. Ce n'était pas une si grande évidence. Vous savez, c'est depuis Pentecôte, après la résurrection de Jésus, qu'il est dit que la prophétie de Joël disant que le Saint-Esprit est répandu sur toute chair est accomplie. Alors aujourd'hui, c'est le cas. Le Saint-Esprit, c'est pour qui il le demande? Jésus dit, si vous qui êtes mauvais... Il dit ça comme ça, il dit ça de tout le monde en général, on peut le dire aussi. Vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants. Quand ils vous demandent du pain, vous leur donnez du pain, quand ils vous donnez autant que possible les meilleures choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père, votre Père céleste, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? C'est ça qu'il dit. Donc le Saint-Esprit, il est donné à qui aujourd'hui ? À ceux qui le lui demandent. Il ne va pas mégoter, parce qu'il désire, Dieu, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui crée le lien entre Dieu et les hommes, et aussi entre les hommes entre eux. Donc voilà, cet homme, ben quand même, ce n'était pas le premier venu, mais je vous dis, ce n'est peut-être pas hors de notre portée de cultiver toute notre vie la droiture, la piété, l'attente, le désir de ce que Dieu fait et de recevoir le Saint-Esprit. Alors à lui, il est donné quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens, un jour, je lisais ce récit, puis il y a une vieille dame qui dit « Ah, il s'est passé des choses merveilleuses à Noël !» Moi, ça m'a fait réfléchir, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé de merveilleux dans ce récit ? Rien. Parce que c'était une coutume, les parents de Jésus venaient présenter leur bébé. Alors, il y avait une coutume en Israël, je vous passe les détails, ça date de l'époque de l'Égypte. Tous les premiers-nés d'une famille devaient être présentés au Seigneur, et cette présentation faisait l'objet d'un sacrifice. Donc, il fallait aller dans le temple de Jérusalem, offrir un sacrifice. Là, on nous dit deux jeunes pigeons. C'était le sacrifice des pauvres, au passage, parce qu'un sacrifice sérieux, il fallait donner un mouton ou un truc comme ça. Mais les gens qui n'avaient pas les moyens, ils avaient le droit de donner deux pigeons. Bon, ça s'attrape, deux pigeons, hein. Bon, il y a moyen, même pour les gens pas riches. Mais ça montre que les parents de Jésus n'étaient pas riches, ils étaient fidèles, ils venaient faire ce qu'on leur demandait. Et ils le faisaient au minimum, parce que c'était dans leurs moyens. Mais ils venaient. Eh bien, il y en avait tous les jours, des comme eux, qui venaient dans le temple pour présenter leur bébé et offrir le sacrifice prescrit par la loi de Moïse. Il y en avait tous les jours, tout le temps. C'était des parents ordinaires qui venaient présenter un bébé ordinaire. Donc, a priori, comme ça, il ne se passe rien de merveilleux. Sauf que Siméon, il voit. Voilà, il voit quelque chose que les autres ne voient pas. Le Seigneur lui a promis, le Saint-Esprit lui a dit, avant de mourir, tu verras le Messie. Et lui, il voit ce bébé-là. Je suis sûr qu'il en voyait tous les jours. Et les autres bébés, il n'a pas dit, ah, il ne s'est pas fait des illusions en disant, ah, ça doit être celui-là, ou bien celui-là, ou bien celui-là. Mais celui-là, le Saint-Esprit lui a dit, c'est là. C'est l'esprit prophétique. Vous savez, moi, je pense que l'esprit prophétique consiste souvent à voir clair là où les gens, où la plupart des gens ne voient pas clair. J'ai eu la chance, j'étais à la pastorale baptiste il n'y a pas longtemps, puis il y avait Daniel Lermenot. Moi, je le nomme parce que je nomme les gens quand j'ai que du bien à dire d'eux. Voilà. Si on a du moins bien, il ne faut pas les nommer. Enfin, surtout pas en prédication. C'est un vieux, vous savez, ceux qui le connaissent, c'est un vieux pasteur, il est en retraite, il a 80 ans et plus. Et il vient au pastoral, puis moi je le voyais comment il se place comme ça, sur le côté, un peu à l'écart. Il est grand, c'est un grand bonhomme, alors même quand je mets à l'écart, il passe pas inaperçu. Et puis il regarde, moi je dis, j'ai l'impression qu'il survole un peu ce qui se passe, ce qui se dit, tout ça. Puis de temps en temps il prend la parole, et quelquefois il prophétise. Ah, sur telle église, ceci, ceci. Il écoute ce que les gens disent et il prophétise. Ou bien il donne un conseil. Vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Moi, j'y ai vu cette même attitude qu'a Siméon. Il peut se permettre. On l'écoute. C'est moi qui commence tout juste à devenir un peu vieux. Je me dis, comment je serais quand je serais vieux ? Vous savez, il y a des vieux, quand ils sont vieux, on est content qu'ils s'en aillent. Moi, je dis carrément, j'en vois. Ils prennent leur retraite et puis c'est tout, quoi. Bon, ben, c'est tout. Bon. Ils ont fait leur boulot et puis on ne leur demande plus qu'ils en refassent beaucoup plus. Et puis il y en a d'autres. Quand ils se lèvent, on écoute. Ça se remarque. Quand ils se lèvent, tout le monde se tait. Et c'est son cas à lui. Et il se lève pour vous dire quelque chose, pour vous aider, pour dire une parole prophétique s'il en a une, ou bien simplement un conseil. Vous voyez ? Voir. Quelquefois, j'écoute des gens, je pense que je sais faire ça. Quand les gens parlent d'eux-mêmes, de leurs problèmes, tout ça, j'écoute. Puis des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Ben, souvent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, on peut toujours, hein, c'est, quand quelqu'un vous parle, répondez-lui, et puis répondez-lui du mieux que vous pouvez. Faut toujours faire du mieux qu'on peut. Mais moi, je vois des gens, ils ont un problème. Il faudrait vraiment une parole du Seigneur qui les aide, quoi. Moi, je prétends pas avoir l'esprit prophétique. Ou alors, rarement, pas assez souvent. Peut-être quand je serai vieux. Ça va me dire. J'espère. Je demande au Seigneur. Parce que c'est tellement précieux, cette capacité, quand quelqu'un, quand on voit, quand on écoute quelqu'un, de savoir lui dire ce qu'il faut lui dire de la part du Seigneur. Là, on se dit, ouais, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il a fait quelque chose. Il a dit quelque chose. Il a aidé tel frère, telle sœur. Justement, parce que je ne suis pas trop prétentieux dans ce domaine-là, j'admire la chose. Alors Siméon, ben, il avait ça simplement, de voir cet enfant et de dire « c'est lui le Messie ». Et je peux vous dire qu'il n'a rien vu. Hein. Jésus, il a commencé son ministère à 30 ans. Siméon était vieux. Et il dit justement, il dit merci au Seigneur parce que maintenant je peux partir en paix. C'est-à-dire qu'il va mourir bientôt. Il est certain qu'il n'a pas vécu 30 ans de plus. Et donc, il n'a pas vu Jésus venir avec sa puissance, avec sa parole, son enseignement, avec ses guérisons. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu, Siméon. Mais il a vu quand même. Alors, demandez, vous voulez voir le Seigneur ? Demandez-lui. Alors, tout le monde n'est pas prophète. Hein. Ça fait partie aussi, la Bible dit, certains sont prophètes. Voilà, certains, il y a des dons qui ne sont pas donnés à tout le monde, il faut l'accepter. Certains ont le don de prophétie. Et si je ne l'ai pas, ben je ne l'ai pas, ce n'est pas la peine que je fasse semblant. Mais je veux, moi aussi, au moins de temps en temps, voir Jésus, voir le Seigneur. Bon, de temps en temps, je le vois. Je vois des gens chez qui ben, le Seigneur a agi, je suis content. J'ai vu que le Seigneur a agi. Ce matin, je l'ai dit à quelqu'un, parce que ça fait plaisir. On a besoin de ça. Bon, on a besoin aussi de savoir que Dieu agit dans notre propre vie. Parce que ben, si on vient à Dieu, c'est qu'on espère que ben, la vie spirituelle qu'on se met à développer, elle va produire son fruit, qu'il va se passer quelque chose. On a besoin de le voir. Siméon, il a vu. Mais qu'est-ce qu'il a eu ? Siméon, il a été récompensé de sa grande et de sa longue fidélité simplement par la révélation du Saint-Esprit que voilà, c'était lui. C'était cet enfant-là. C'était ce petit bébé-là. Ça a été sa récompense. Et lui, il exulte de joie. Il se réjouit en disant « Seigneur, il est reconnaissant. » Vous voyez, il dit « Mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Moi, je ne vais pas parler là-dessus aujourd'hui, mais vous voyez, à la fois, ce Messie, il est pour Israël et pour toutes les nations. Et puis aussi, là c'est plus difficile, hein, parce qu'on aime bien Noël, c'est merveilleux. Une naissance, c'est merveilleux de toute façon. Quand il y a une vie qui naît, on est content. Il n'y a rien, ça emporte le morceau, quoi. Même s'il y a des difficultés, ouais, mais il y a un nouveau-né, c'est formidable. Et il a, cet homme qui est prophétique, une parole pour Marie qui n'est pas marrante et qu'on n'a peut-être pas envie de lire à Noël. Il lui dit « ce sera un signe de contradiction ». Il va révéler les pensées des cœurs. C'est une bonne nouvelle, ça ? Ben, ça dépend, hein ? Il va révéler les pensées des cœurs. Il va se comporter d'une manière telle que face à lui, on est obligé de se révéler pour ce qu'on est. Donc, ça va être un peu le choix à faire, quitte ou double. Il va se faire rejeter. Et il va se faire rejeter sous les yeux de sa mère. Il y a un pasteur un jour qui a dit ceci, et moi je pense que c'est vrai, il a dit « il n'y a pas de problème plus difficile à surmonter que celui qui une mère qui perd un de ses enfants, quel que soit l'âge de l'enfant. » Et j'ai réfléchi à ça. Il y a un autre... Ouais, enfin bon, peu importe. C'est vrai. Je pense que c'est vrai. Et que les femmes, spécialement les femmes, les hommes aussi, mais la femme a quand même un lien très spécial avec son enfant, les femmes qui ont perdu un de leurs enfants et qui réussissent à surmonter ça, moi, je m'incline, je tire mon chapeau et je dis, je suis dépassé. Et je l'ai vu. Oui, j'ai vu le Seigneur. Ça me revient. J'ai vu une femme qui a perdu là, un fils, le coup classique, hein, 20 ans, un accident de voiture, voilà. Hein. C'est tellement banal, ça arrive, on sait que ça arrive. Et puis elle venait plus à l'église. Et un an après, elle est revenue en disant, ça y est, j'ai réglé mes comptes avec le Seigneur, je reviens. Moi, vous savez, j'étais petit. J'étais jeune à l'époque, mais même vieux. Un truc comme ça, ça me laisse petit. Parce que, voilà, et Marie, elle va subir ça, la déchirure, quoi. Et Siméon, c'est pas un type qui a pris... un type qui se drogue à l'espérance. Ouais. C'est ce que disait Marx, il disait, la religion, c'est l'opium du peuple. Donc les gens croient un au-delà, disons, c'est leur drogue. Du coup, à cause de ça, ils n'affrontent plus la cruelle vérité de la vie. Ben effectivement, si c'est ça, c'est pas ça. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est pas se droguer à une espérance plus ou moins illusoire. L'évangile, c'est voir la réalité. Et Siméon, lui, il voyait la réalité. Toutes les réalités. La réalité de celui qui représente l'espérance et qui va grandir. Et depuis 2000 ans, il a pas mal grandi. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Il y en a combien quand même qui croient en lui sur cette terre. Ça se compte en milliards maintenant. Hein. Il voit la réalité de ce petit enfant qui va grandir et il voit aussi toutes les souffrances que ça va générer. À mon avis, non pas que ce soit lui qui génère les souffrances, mais qui les révèle. Il montre la réalité, la vérité de nos cœurs. Et là, on doit aussi, quand on est croyant, accepter cet aspect-là des choses. Je ne suis pas croyant pour me faire caresser dans le sens du poil tout le temps. Je suis croyant pour qu'il m'apporte aussi à moi la contradiction. La contradiction, non pas pour me détruire, mais pour me mener plus loin, pour me mener ailleurs que dans mes contradictions. Voilà, donc j'en étais à Siméon, qui a vu Jésus. Moi, j'ai vu Jésus. Quand je vois certaines gens qui sont délivrés, qui changent de vie, je vois Jésus, même si je ne suis pas prophète. Et moi, je vous invite, hein, demandez-lui. Vous savez, en quelque sorte, moi, je dis, le Seigneur, il ne nous doit rien. C'est lui qui donne tout et nous, on ne mérite rien. Mais il sait ce que nous sommes. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous avons besoin d'aide, que nous avons besoin d'encouragement. Alors moi, je lui demande de temps en temps, encourage-moi. Montre-moi quelque chose où je puisse dire, ouais, c'est vrai. Là, le Seigneur agit. Alors je vous invite à en faire autant, à ressembler à Siméon. Et voilà, c'est aussi pour bien finir sa vie. Hein. Siméon a dit, je peux partir en paix. Ben, moi, j'ai vu des croyants qui partaient en paix, qui terminaient leur vie en paix. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Quand je les vois, je me dis, ben, j'aimerais bien faire autant. Et puis, il y a la deuxième personne, c'est Anne. On nous dit aussi qu'elle était prophétesse. Ouais. Anne, vous voyez son histoire. On ne nous dit pas que c'est si Siméon était prêtre et tout ça, mais Anne, c'est sûr, elle n'était pas. C'est une femme, elle n'avait aucune fonction dans le temple. On nous dit qu'elle a été mariée pendant 7 années. On ne nous dit pas si elle a eu des enfants. Peut-être qu'elle n'en avait pas. Depuis, elle a été veuve et elle avait 84 ans. Ben, ça pouvait faire un bail que ça durait. Hein. Vous pouvez compter qu'il y avait peut-être 50 ou 60 années de sa vie qu'elle avait passé à être veuve et à s'intéresser à la piété plus qu'à quoi que ce soit d'autre. Moi, j'ai connu une personne comme ça, quand on était en Charente. Il y avait une vieille dame là, qui faisait plein de choses, mais elle s'occupait du diaconat, elle s'occupait des pauvres, elle s'occupait de l'église, tout ça. Et j'ai appris que ce n'était pas une vieille fille, parce qu'elle avait été mariée et qu'elle avait été veuve à 28 ans, elle, et sans enfant. Et elle a consacré toute sa vie aux autres. Ben, je vous assure, c'était une dame, là aussi, chapeau bas, hein, parce qu'elle passait son temps à s'occuper des autres. On lui disait quelquefois, mais comment est-ce que vous pouvez faire autant de choses ? Répondez, bon, ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait petit à petit, qu'on rentre dans une activité, puis après une autre, et puis une autre. C'était magnifique à voir. Comment elle s'appelait, Claire-Lise ?
Madame Delavoye.
Madame Delavoye, voilà. Elle, on peut la citer, je vous dis que du bien. À Marennes, là-bas, là où il y a des huîtres, là. On était par là à une époque. Ben, moi, je vois le Seigneur. Pourquoi cette dame, elle se réjouirait de sa vie ? Elle a épousé un mari, il meurt, elle n'a pas d'enfant. C'est quoi cette vie ? Eh bien, elle a fait de sa vie quelque chose devant qui tout le monde s'incline. Et c'était pas une personne qui était riche, qui avait des moyens, elle était modeste. Enfin, c'était... Voilà. On en a une comme ça, Anne. Anne, on ne nous dit même pas qu'elle a prophétisé. Vous voyez, moi j'aime bien le dépouillement. Qu'est-ce qu'il y a à dire de cette Anne-là ? Ben, pas grand-chose. Elle a vu, elle a été témoin de ce qui s'est passé avec Siméon, et puis elle a témoigné, elle l'a dit à tous les gens qu'elle connaissait, des gens qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance d'Israël. Moi, je dis, c'est là, l'église cachée, vous savez, il y a des partis, il y a des... Même pour nous, c'est vrai aussi, il y a des églises, de ceci, de cela, même la nôtre, hein, je ne veux pas, mais... Le réseau de tous les gens qui aiment le Seigneur et qui s'attendent à ce qu'il vienne, voilà, ça c'est l'église. Et pour une part, on la connaît, j'espère, l'église, bon, j'espère qu'on en fait partie, mais cette église, c'est l'église du Seigneur. L'église cachée, l'église dispersée. Eh bien, elle a témoigné de tout ça à tout le monde. Et c'est comme ça que les parents de Jésus, qui venaient probablement parmi des dizaines d'autres, présenter leur enfant au temple, eh bien, le Saint-Esprit s'est arrangé là pour qu'il y ait ces personnes qui voient. Pardon. C'est moi qui ne vois pas clair. Qui voient et qui... Et ça s'est su. Et ça s'est su. Voilà, ça c'est les réseaux sociaux du Seigneur. Moi je me demande, c'est tellement... Alors moi je suis en retard là-dessus et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Je ne m'intéresse pas, je ne suis pas sur Facebook, tout ça. Bon, je ne suis pas moderne. Mais je ne critique pas, si c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. D'autres le feront, il faut témoigner partout, même peut-être sur Facebook. Mais comment les gens ils faisaient quand ils n'avaient ni ordinateur, ni internet, ni même de téléphone ? Le téléphone arabe. Ben ouais, les juifs, c'est presque des arabes. Ben oui, mais ça marchait. Ça marchait. Les nouvelles, elles se répandaient bel et bien. Et ceux qui étaient à l'affût, qui avaient les oreilles pour entendre, ils savaient. Il y avait plein de gens qui, 30 ans avant que Jésus vienne, ils avaient entendu dire qu'il était né le Messie. Il y a plein de gens. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur un terrain qui était déjà préparé. Par des gens comme ça, par des gens qui ont vu Jésus. Alors, moi je vais conclure. Est-ce que vous voulez voir Jésus ? Ouais ? Je ne peux pas vous promettre, en plus que je ne suis pas prophète, que vous le verrez dans sa gloire. Il y en a eu qui l'ont vu dans sa gloire, ils l'ont vu marcher sur les routes, enseigner le royaume de Dieu, faire des guérisons. Il y en a même qui l'ont vu ressusciter. Ouais, mais il y avait avec la contradiction. Ils ont dû aussi faire avec ça, avec la contradiction. Donc ça n'a pas été si facile même pour cela. Hein. Et c'est certain, hein, notre vie n'est pas facile. Mais voyez, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous jurer que vous le verrez en gloire, quoique je le souhaite, quoique je souhaite le voir aussi, peut-être autrement qu'au dernier jour, à la résurrection des morts, comme a dit Jean-Michel tout à l'heure. Mais en attendant, je veux le voir au jour le jour. Je veux voir le Seigneur, je veux voir le Seigneur, je veux voir le Seigneur. Et en vérité, pas seulement pour dire « Ah, j'ai vu quelque chose de merveilleux ». Il est aussi le signe de contradiction parce qu'il ne va pas changer les choses sans nous obliger à affronter les choses, à affronter la vérité. C'est ça le signe de contradiction. Il faut accepter ça aussi. Je veux voir le Seigneur, je veux qu'il fasse son travail. Alors qu'est-ce que je dois faire pour ça? Ben juste, je vais revenir ça, avoir un peu de droiture, un peu de piété, cet esprit d'attente, et demander le Saint-Esprit. Et je vais voir le Seigneur. Amen.
Merci, David.